Chapitre 8e. Quand je m'éveillai, Zeltel avait disparu. Les portes étaient fermées et sans serrure visible. Quelques radicals socialistes, mon futur concurrent aux élections, m'avaient enfermé seul avec un trône, comme les épouses prévoyantes enferment sans qu'ils s'en aperçoivent, pour divorcer ensuite à leur jour, l'époux avec une négresse. Le téléphone, le microphone, le réflecteur avaient disparu. La vieille salle dorée avait supprimé ou réabsorbé ses sens nouveaux. Il ne restait plus, sous un portrait de Bénédicta, femme de Louis le Sévère, qu'un tableau d'appel dont je pressais deux boutons, celui du chambellan de la porte, pour qu'on m'ouvrît, et celui de la chambellane tercéenne, pour en voir une dans ma vie. Mais il ne vint qu'un des deux pages, son maillot noir à la main, et qui se hâtait d'accrocher les boutons à pression de sa robe verte et rouge. Le bain de tyrannie et de bon goût était terminé. Par des passages obscurs et des escaliers de service, mais qui longeaient les salons à couleurs et un nom féerique où nous pouvions plonger grâce au hublot dissimulé par la piste de la Valtaille que la tradition des chambrières et des laquais avait ainsi baptisée, par le couloir de l'araignée, la cour aux chats et le palier du nombril de Charles, nous forâmes dans le palais aux parties non protégées par la nacre, l'onyx et l'encaustique, des pré-raphaélites munichois, un terrier sans honneur. Les hublots nous laissaient parfois apercevoir, dans le salon du grand Casimir, dans la cour papale, des groupes bavarois à la recherche de Zelten, que la famille Wittelsbach, vieille atalante, déroutait ou ralentissait par des parquets trop glissants ou par des mosaïques. Pas de rencontre à part celle du concierge à casquette galonnée, casquette qu'il souleva, sachant par expérience que tout ce qui sortait depuis quelques années par l'escalier de service avait infiniment plus de chances d'être princier que ce qui entrait par l'escalier d'honneur. Je passai la journée à chercher Kleist, qui n'avait pas reparu à Nymphenburg. Ida croyait qu'Eva de Schwanthofer l'avait conduite à Oberammergau, à sa villa. Il paraissait d'ailleurs impossible d'aller ailleurs, tous les moyens de transport étant réquisitionnés ou par les contre-révolutionnaires ou par le service de la Passion. Le lendemain, vers 2 heures, je fus déposé à Oberammergau. La représentation commençait et j'eus de la peine à l'éviter. Les archers de Dieu rabattaient vers les guichets du calvaire. Mais ma curiosité ne les aidait point, car j'étais venu ici en 1905 pour cette répétition générale qui précède de 5 ans la représentation. La Passion, d'ailleurs, doit être la seule œuvre dramatique qui supporte cet intervalle. Arrivé par la montagne avec des bandes de tyroliens aborés des cantonniers, car leurs bâtons ferrés crevaient les routes, j'avais eu la chance d'être le voisin du nonce qui avait donné le signal des applaudissements au châtiment de Judas et de Mrs. Barfield de Birmingham qui devait acheter l'anon chevauché par Jésus dans l'entrée à Jérusalem, l'emmener à Birmingham, et pour guérir sa nostalgie, pauvre sioniste, d'y faire périr de candies et de vrais chardons écossais. La conversation ingrate avec le nonce, qui m'indiquait par leur nom biblique les héros du lever du rideau, Gad, Aristophel et Acanaas, le fut moins avec Mrs. Bartfield, qui habitait le village depuis 3 mois et ne savait au contraire de Jésus, de Véronique ou des apôtres que leur nom de paysan. Je pus, grâce à elle, constater que Strauss-Meyer, c'était Ponce Pilate, se lavait vraiment les mains dans une bouteille d'eau du Jourdain offerte par Mrs. Bardfield, que le père Wolf s'était piqué à la couronne d'épines en la portant et qu'il saignait, que Zwang tenait mal ses 30 deniers et allait sûrement les perdre. Et j'obtins pour toujours ma traduction allemande de la Bible, quand celui qu'elle appelait Anton Lang, ayant soupiré sur la croix et rendu le dernier soupir, celle qu'elle appelait Maria Lang, sa mère, justement s'étant écroulée de malheur, Melchior Breitsamer, le disciple aux cheveux d'or, soutenant Paula Randall, celle qui devait aborder un jour au Sainte-Marie avec Bertha Veit et Liesl Oldmüller, soudain au milieu des cris et des tempêtes, quand Meyer, le simple Meyer, du haut de ses cieux, appela son fils Miller à sa droite, s'entoura de ses séraphins Zwick, Meyer, Zwing, et de la main caressant sa barbe blanche, de l'œil faisant un léger signe d'intelligence au nonce, foudroya, car ils commençaient à s'agiter bruyamment avec leurs 130 démons, Julius Freising et Kurt Eberlein. La tribu sainte d'Obermorgau n'était pas sortie intacte de la guerre. Les mobilisés avaient dû, malgré les démarches du bourgmestre, laisser couper pour la première fois de leur vie leur chevelure. Sur les bras nus demeuraient les marques du vaccin antitifique, anticolérique, antitétanique, et il apparaissait que les amalécites avaient sévi sur la région. Aux portes du bourg, des gaillards armés d'arcs et de javelots montaient la garde, car les mineurs voisins de Peissenberg menaçaient d'interrompre par la force des spectacles si préjudiciables au prix des denrées, et un Américain devait, malgré les défenses, cinématographier la scène d'une fenêtre. Dès que le soleil éclatait sur une vitre, tous les arcs se bandaient contre elle. Ils parlaient le langage du nonce, et j'appris d'eux que les Schwanhofer habitaient en dehors de la ville, entre les maisons de Saint-Doc et de Saint-Pierre. Pour y arriver, j'eus à passer sur le tronc d'un chêne les canaux d'eau courante, à écarter les aubépines, à toucher tous les végétaux qui avaient fourni au jeu la couronne, la croix ou les fleurs. Un aigle planait au-dessus de quelque agneau dédaigné pour le rôle d'agneau bascal. Le printemps et la montagne, affolés par tant de visites, offraient à profusion de quoi finir pour toujours la passion et la lutte du bien et du mal, des chutes d'eau par milliards de volts pour électrocuter définitivement Judas, des lacs profonds de 1000 pieds pour noyer l'enfer, et pour donner un jeu éternel aux séraphins et aux archanges, un chamois apprivoisé qui m'escorta. Forestier était assis sur la terrasse et un jeune homme près de lui feuilletait les journaux. Il avait soulevé sa tête de ses mains et l'offrait au soleil comme on offre une part de soie au rayon X. À tout bruit, à tout murmure de cascade, il tendait l'oreille avec la demi-grimace de ceux qui croient avoir entendu crier leur nom. Son lecteur lisait les dernières nouvelles de chaque nation, qu'il écoutait religieusement, comme si l'espoir lui restait de deviner son pays au nombre des ouvriers chômeurs, des incendies ou des duels entre parlementaires. Et il se promenait sur l'Europe comme un sourcier. Que peu de nationalités, d'ailleurs, paraissaient enviables. « Et en Italie ?» demandait-il. « Bon, le brave Gaspari a conclu un traité avec les bolcheviki. Les fascistes marchent sur Rome et les récoltes sont mauvaises. D'Annunzio s'est fracassé la tête Une maladie appelée caricot sévit dans les houilles. Et en Hongrie, oh, les fonctionnaires des provinces cédées qui logent dans des trains ont obtenu des wagons de seconde. C'est la seule information de bonheur. Oh, la récolte est mauvaise. Une maladie appelée charnin sévit près du Balaton. Et de Russie, oh, on a découvert à la fonte des neiges 15 000 cadavres dans un coude de colline, là où les prospecteurs espéraient trouver du pétrole. Deux Américains de la Croix-Rouge rapportent les photographies de petits enfants qui ont mangé leur père. Et des pays baltes, il semblait ne pouvoir se résoudre à questionner le lecteur sur l'Angleterre, l'Amérique, la France. J'y pressentais une appréhension, c'est-à-dire une préférence, et je n'en étais pas fâché. Le journal ne donnait ce matin sur la France qu'un renseignement ridicule. Deux éléphants d'un cirque en voyage avaient évité une collision en gare de Tulle quand on les avait attelés en l'absence de machine à une rame mal placée. Je me décidai à avancer, résolu à parler aujourd'hui même et à guérir le seul être qui souffrit dans ce bourg dédié officiellement à la souffrance. Du moins, je le croyais. Mais il se précipita vers moi avec l'élan de celui qui donne une nouvelle et non de celui qui la reçoit. « Mon pauvre ami, me dit-il, Geneviève se meurt. Il a fallu l'opérer ce matin, on désespère. Et va auprès d'elle, venez !» Geneviève ne mourait pas commodément. Elle avait un lit un peu court et ses regards aussi étaient gênés par la montagne qui tombait devant elle à pic. Elle préférait attendre la mort, les genoux pliés et les yeux fermés. Jamais humiliée, mais toujours repentante d'être fille naturelle, pleine d'admiration pour ce qui est l'ordre ou la loi, elle essayait seulement de donner à sa vie une conclusion plus régulière que son commencement. « Est-ce que cela se fait ?» me demandait-elle, quand je voulais lui mettre 3 oreillers au lieu de 2, ou lui dire quelques livres nouveaux. L'idée d'une mort conforme aux usages établis l'effrayait moins. Tous ces personnages licites et légitimes qui allaient et venaient autour de son lit, non insoumis, non polygames, à métiers clairs et définis, la flattaient dans son mal. Le curé d'Oberammergau vint la voir, puis le pasteur, puis le rabbin. Elle déplorait d'avoir à choisir une religion au moment où 3 s'offraient si aimablement, comme on déplore une triple invitation pour le même soir, et décidait d'être enterrée selon le rite qui permettait l'assistance et la présence des 2 autres. Au fond, elle eût voulu être en règle aussi avec la religion musulmane, la religion hindoue. Elle me demandait sur Bouddha les renseignements qu'elle eût demandés sur un employé d'état civil, s'il était impitoyable, s'il était beau. Elle était tourmentée seulement de la tristesse et de l'incertitude de forestier, de sorte qu'un soir je fus amené à lui dire qui il était. Elle en fut toute heureuse. Non point qu'elle eût éprouvé moins de sympathie pour lui s'il était né dans une ville étrangère, mais être hongrois ou bulgare ou lituanien ne lui semblait pas une situation aussi parfaite conformité avec la vie régulière et avec le code qu'être français. « Tâchez qu'il s'inscrive à Belleville, me dit-elle. Tout lui sera aisé. Le jour de mon mariage, le maire de Belleville n'a lu tout haut ni mon date de naissance ni mon âge. Il fut convenu que Kleist, dès qu'elle pourrait rentrer en France, nous accompagnerait. Elle le lui fit promettre. Depuis la révélation de Zelten, Je n'avais plus reçu aucune lettre de la consul, aucune visite de Schmeck. Eva s'était résignée. « Mon cher Kleist, disait Geneviève, ce n'est vraiment pas de chance de voir mourir ainsi sans raison la première Française que l'on rencontre. Si vous raisonniez comme l'Anglais qui vit la femme rousse de Boulogne, vous nous feriez une belle réputation. Vous le voyez, Jean, j'avais raison. Tout ce qui n'est pas en bois me porte malheur. Mais allez réclamer une table d'opération en bois, des pinces et des bistouris en bois. Les opérations sont comme les voyages en Algérie. On s'imagine qu'on va pouvoir choisir son bateau, sa place, sa semaine, et l'on est jeté sans précaution dans un des tubes même du déterminisme. Je n'ai vraiment jamais pu être comme les autres. Je reviens faire mes enfants en France et je vais mourir en Allemagne. Pour reparler des Françaises, Kleist, je vous assure qu'elles sont très solides et que les veuves en France sont autrement nombreuses que les veufs. Mais ne parlez pas toujours de mort, Geneviève. Pourquoi? Cela ne se fait pas. Elle n'insistait point. Au lieu de revoir sa vie en une seconde, comme d'autres mourants, elle la revit minutieusement, mordant même un peu sur la vie de sa mère, du temps où elle-même n'existait pas encore. J'en étais à ma naissance, j'en étais à l'élection de Félix Faure, oh, j'en étais à l'exposition de 1900, disait-elle quand j'entrais. Car ses souvenirs ne se cristallisaient qu'autour de dates officielles. Elle parlait à peine de son métier, mais ses mains s'agitant, caressant ou creusant, nous sentions que sa mémoire de sculpteur complétait ou illustrait l'autre. C'étaient des mains qui avaient beaucoup touché l'univers et son argile, un peu usées et étroites, et qui entrait dans toutes les mains amies comme dans un fourreau avec de bien inutiles petites rides pour le sang. Elle avait peu de fièvre. Le mal l'attaquait par assaut qui déroutait les docteurs, enflant subitement de ses bras, entourant son front d'un bandeau inconnu. On eût dit qu'il essayait sur elle de nouvelles façons de tuer. Le matin, où elle en était au passage à Paris du roi d'Espagne, elle sentit ses jambes froides et le froid monter. Mais c'était trop peu pour une pauvre créature abîmée par la vie, les excès et l'insouciance. Une péritonite se déclara, puis une pneumonie double, puis je ne sais plus quoi encore, et par ses armes les plus vulgaires, la maladie parvint à triompher de cet enfant. « Mais ne parlez pas tant, répétions-nous. C'est que je n'ai jamais tant pensé, mes amis. Quelle drôle d'histoire que la vie. Peut-être personne, dans une semaine, ne pourra plus parler à la première personne de moi, de mon corps, de mes yeux. Et cependant, je ne renonce à aucun de mes goûts. Je préfère toujours le jaune aux autres couleurs. Je sens le bleu et le rouge intrigués autour de moi, essayer de m'attendrir, profiter de ma faiblesse, rien à faire. Je continue à détester jusqu'à la dernière minute les gâteaux secs, le crêpe de Chine, les tapis au buisson empire. Mon Dieu, qui sont désagréables aux pieds! Pour les animaux et les hommes, au contraire, je n'ai plus de parti pris, plus aucun. Dieu sait si j'ai pu détester les singes, les animaux à langue visqueuse, comme le fourmilier, les rats. Eh bien, je les verrai sans ennui entrer maintenant par centaines dans ma chambre. Et aussi d'ailleurs ce pauvre Bourguereau. Et aussi cet hypocrite de Kessler. Et Lanthelme, un grand blond, dont je me souviens, mais cela, c'est une autre histoire. La porte s'ouvrait. Oh, ce n'étaient ni les fourmiliers, ni les rats, ni le cortège des humains dont la présence l'agaçait, des actrices aux députés. Ce n'étaient pas non plus, hélas, les Bernardo de Rothschild. C'était le docteur avec sa morphine. Il essayait de la faire taire. Je me tais. Mais ce grand blond, malgré tout, j'y reviens. Une brute qui croyait tous les autres êtres des brutes, ne les aimant que pour cela et disparaissant le jour où il doutait de leur brutalité. Oh, que n'ai-je pas commis pour retarder ce jour-là? Sous ses yeux, je touchais en brute à mes oiseaux, au ver à moi-même. Dès que j'étais seul, j'essayais de réparer en embrassant et caressant, comme je pouvais, ces pauvres objets et cette pauvre femme. Mais cela ne vous intéresse point, Kleist. J'ai des projets sur vous. Voulez-vous que nous fassions l'aveugle et le paralytique? Ce n'est plus rien devant moi, mais j'ai un petit passé. On n'arrive jamais à la mort sans dot. Je voudrais vous léguer ce qui peut subsister de ces 36 ans et 2 ou 3 commissions. Je tiens à ce que vous habitiez parfois ma maison de Solignac. Vous hériterez de moi, de moi-même. J'ai écrit dans ce papier 2 ou 3 de mes manies que je voudrais ne pas voir périr, car je n'ai pas de petits-neveux auxquels elle reviendrait naturellement, comme disait Heine dans sa 3e lettre. Je tiens à ce que vous soyez à Paris pour l'exposition coloniale de 1924. Celle des arts appliqués, oh, je m'en moque. Art appliqué d'ailleurs une faute de français. Je tiens à ce que toutes les fois que vous entendrez le mot prémisse. Elle passa ainsi le soir à séparer ce qui devait périr avec elle et ce qu'elle devait planter dans le nouveau passé de Kleist. Puis, quand le chromo officiel de sa vie fut épuisé, quand les troupes alliées eurent défilé sous l'arc de triomphe, et quand il ne resta plus en elle que ses défaillances, ses erreurs, ses mauvaises habitudes, elle se tut, gémit toute une nuit, ressembla soudain à la mort, ressembla pour la première fois à son fiancé futur et non passé, et mourut. Il était minuit. Tous les Français dormaient, y compris le million de mères que la guerre a privé de fils, y compris dans les dortoirs de la Légion d'honneur, groupés pour la surveillance autour de la répétitrice qui ronfle sous sa tonnelle de mousseline, les 4 élèves romantiques. La lune, pour une aussi belle nuit, s'était arrangée à la paraffine des traits normaux. À peine un futur clairon s'exerçait-il dans les jardins lumineux sur un clairon d'argent. Tout dormait entre Rhin, Atlantique et Pyrénées, y compris, car c'était le lendemain d'un dimanche d'élection et de sport, les nouveaux conseillers généraux et les nouveaux champions de longue paume. Y compris Monet, Bergson, Foch. Dans une proportion défavorable aux pyjamas et favorable aux chemises de Madapolam, les 800 000 fonctionnaires dormaient, gloire et douceur de l'État. L'égalité de la nuit pénétrait par des millions de volets hermétiquement clos et par 5 ou 6 fenêtres ouvertes, le peuple le plus amoureux de l'égalité et le plus ennemi de l'air. À peine une cloche mal attachée tintait-elle parfois en reprenant son équilibre. Aux douaniers et aux poètes qui veillaient encore, par respect de la République ou du firmament, et qui recevaient debout les coups homicides de la nuit, La nature hypocrite affectait de se donner elle aussi pour mortelle, mais de consacrer à cette politesse que l'effort minimum, une brindille cassée, un craquement dans un silo, se peut qui satisfait, paraît-il, les douaniers et les poètes que consomme à minuit l'idée d'une mauvaise nature immortelle. Tout dormait, y compris les acteurs et les actrices encore maquillés dans le dernier train de Bois-Colombes. Les 300 000 concierges dormaient, mais avec des sursauts, conscience des maisons. Y compris le loin dont on avait clos les écluses, y compris dans de grands cimetières inclinés à la lune, Pasteur, Debussy, Rodin, tout dormait, hormis moi, qui regardais Forestier endormi dans le wagon qui nous menait au Limousin, devant la première pente du massif central, la locomotive soufflait. J'avais fermé le gaz, tiré les rideaux. Je maintenais l'ombre sur mon ami jusqu'au moment où je pourrais à la fois lui apprendre son nom et lui révéler son département Haute-Vienne étincelant. Car j'avais décidé de tout dire aujourd'hui. Il dormait comme tous les Français. Je l'entendais parfois rêver dans sa langue étrangère. Je me penchais, je lui répondais dans la mienne, je ramenais le français sur lui comme une couverture. Ce qui restait encore en lui de Siegfried aspirait à longue haleine cet air nouveau de la montagne. Ce qui restait en lui de Kleist maintenait sur ses yeux que la mort de Geneviève avait adouci des paupières encore rudes. Puis on cria le nom de la première gare Limousine, et soudain, ce département que j'avais quitté à 2 ans et que je croyais ignoré, me reçut comme son enfant. Mon père l'avait habité toute sa jeunesse. Tous les noms propres que l'on prononçait chez moi avec amour et respect étaient pris dans les almanachs, les annuaires, les journaux de ce pays. Et jamais nom n'avait contenu pour moi plus de nostalgie et d'aventure que ceux qu'appelaient maintenant toute voix les employés ou que je voyais collés au flanc des gares comme des colis précieux laissés pour moi en consigne entre des arbres, des troupeaux dont mon cœur aussi reconnaissait la race par mon père adolescent. Car comme si l'on criait tout à coup dans le silence, aux arrêts de votre train, les noms de celles que vous avez aimées ou désirées. On criait Argenton, Saint-Sébastien, Azérable. Dès le sud de Châteauroux, tous les bourgs dont je connaissais seulement par mon père les dates de foire et de frairie, sortirent pour une si belle rencontre de la réserve fixée par le préfet. Et Aigurande de son premier jeudi mensuel, Saint-Sébastien de son troisième mardi, la souterraine de son deuxième vendredi et de son 28 février des années bissextiles, vinrent me saluer jusqu'au quai. Gargilès, Grossan, pas un seul de ces bourgs dont je ne connusse exactement à quel jour et à quelle heure, saison, se produisait vers lui la migration des génisses, des dindons et des poulains. À Sania, j'aperçus dans les temps la plus grande quantité d'eau que mon père ait jamais vue, car il ne connaissait pas la mer. À Razé, où mon père et M. Grévy, une gare obscure, mystérieuse, accrochait pour la première fois dans mon esprit au train présidentiel, le wagon de la solitude. Toutes les sonnettes des gares sonnaient sans arrêt. En lisant ou en prononçant leur nom, j'avais pressé sur un bouton électrique que je ne savais plus apaiser et qui appelait pour moi de la bourgade de la commune tous les personnages liés à elle dans ma mémoire, à Morterolles, le père Arouet de Saint-Sauveur, l'athée qui faisait ses enfants en janvier pour qu'il naquît en septembre, mais dont la femme n'avait que des grossesses raccourcies ou prolongées, à Bessine, le cantonnier et le père Bénoche, qui avait sauvé un colonel en Crimée, un général au Mexique, et dont la vie était ratée, disait-il, car il lui restait à sauver un maréchal. Au Braillofa, où l'on prend au filet les saumons. Monsieur Claretti, qui avait emmené à la pêche mon père, le jour où il est juste un mètre, et qui l'étendait près des poissons pour les mesurer. À Droux, où des renards qui mangeaient les baies sous les genévriers effrayèrent mon père quand il regagnait le collège, après les arrière-petits-neveux de ces renards, peut-être des chiens aboyaient. À Ambazac, où le loup suivit son cheval, je vis en me penchant deux disques verts et rouges, un loup verron. J'entrai dans le pays le plus légendaire pour moi, après celui de Gulliver, mais où les hommes avaient ma taille et où le train passait. Tout ce qui a permis de prouver que l'itinéraire de Chateaubriand d'Amérique était faux, prouvait que la jeunesse de mon père était vraie. Il y avait juste la place entre Fursac et Blon pour la chasse à cour de Lecointe. Je devinais le nom d'arbres et de plantes presque inconnus pour moi, sarrasin, merisier, genévrier, tant chacun semblait placé ou semé à la place exacte que lui assignait la parole de mon père. Et bien que chaque village offrit à mon regard un tassement nouveau, ce n'était pas sur une contrée nouvelle que j'éparpillais ces noms pour moi usés. Chacun fécondait son district d'une humanité et d'une faune distincte. Le Breuil ou les Lacôtes, nouveaux venus du Bourbonnais, s'étaient brouillés avec les Sillacs, qui avaient servi le poulet avec le foie et la tête, et où chez mon cousin petit vivait un lynx apprivoisé. Rancon, où était empaillé à la mairie un oiseau porte-lyre et où le député, auquel mon père donna son premier vote, affecta toujours de croire qu'il avait voté pour l'adversaire. Rancon, premier synonyme pour moi de la beauté et de la justice. Fromental avec sa tortue, où les nouveaux riches appelés Fromental s'empressent d'acheter des maisons de famille, et où il vit un saltimbanque tomber de la corde raide et se tuer. Premier synonyme pour moi de la mort. Pas un de ces bourgs ensoleillés pour lui et lunaires pour moi, dont le nom ne s'accola ainsi à l'un des espoirs et l'une des déceptions de la vie, telles que je les avais imaginées pour la première fois à 8 ans. Quelquefois des stations, Larsac, le Rénou, dont je ne lui avais jamais entendu parler, et l'air, le sol m'étaient dans cette zone sans saveur. Mais arrivait soudain Saint-Sulpice-Laurière, embranchement vers les trois villes d'université, où il dormait sur un banc dans ses voyages d'examen, et où justement je voyais ce matin affalé une dizaine de collégiens à l'intersection de Bourges, de Clermont et de Poitiers, vers lesquels chacun à l'aube s'orienterait suivant sa force en mathématiques ou sa faiblesse en latin, qu'un répétiteur empêchait de dormir les uns sur les autres par habitude de les empêcher de copier. Plus encore que par ce bruit, aux arrêts d'eau vive perpétuelle, ces odeurs nouvelles d'essence, cet accent de ma terre, j'étais atteint par l'accent limousin des hommes dans la nuit noire, cet accent du midi que mon père reprenait dans ses surprises ou ses émotions, que je retrouvais ce matin dans la voix des chefs de gare, des hommes d'équipe, du répétiteur, et qui me donnait l'impression de circuler dans une province surprise et émue. Sur mon cœur, la pesée s'accentuait de l'air ancestral. J'étais tout à ce sentiment de modestie vis-à-vis des éléments et des humains que l'on ne peut éprouver que dans le pays de ses pères, où ni les monuments ni les familles ne semblent avoir été créés spécialement pour votre passage, comme Chambord ou les Luynes. Et moins que le décor de notre vie en figure une base inébranlable et que quelque peu humiliante avec ces églises romanes où l'eau bénite n'a pas été changée depuis votre baptême, ces chaînes qui en toute votre vie ont pris 30 cercles de 2 millimètres et la dynastie des chaussons bouillants. Cette force à vivre 10 siècles que l'on sent en Touraine entre Cléry et Montbazon. Ce n'était plus guère ici que l'espoir d'une vieillesse robuste, cette immortalité garantie que donne la Provence. Ce n'était plus entre Montagnac et Ambazac que la certitude d'une belle mort. Et peut-être à mesure que j'allais m'approcher plus près de la ville de ma naissance et y reprendre mon rang de simple pion dans le joug que j'eus contre nature les 9 familles principales, cet intervalle avec l'éternité et la liberté allait-il encore se restreindre? Que ma petite dignité d'homme me paraissait claire aujourd'hui, à mi-chemin de Magnac-Laval, où sommeillait la lignée inconnue de mes petits cousins, et du Dora avec mes belles-sœurs de belles-sœurs. Pour la première fois, j'étais réduit à la taille où la page de ma vie cadrait avec le transparent et l'apparition infaillible de chaque nom attendu. Tiens, voilà Drou, Pierre Buffière n'est pas loin. Près de cet être qui n'avait plus ni la jeunesse de son père, ni la sienne. Tiens, Folges et Bersac ont disparu. Ah non, les voilà. Me donnait plus encore que l'indication d'une expérience réussie, la seule vraie estimation que j'ai trouvée. Oh, justement, voilà bel lac de la condition humaine. Soudain, le train fut secoué d'un de ces légers heurts qui passent au corps du voyageur la surprise du mécanicien à la vue d'un mouton sur la voie ou la mort d'un bicycliste dans un passage à niveau. À notre gauche, le soleil se levait et d'un rayon horizontal transperçait le compartiment. Aux stations, on entendait le début ou la fin du chant d'un coq et quand l'arrêt était habile, le chant entier. Du par-dessus de Forestier, de ses vêtements qui allaient lui sembler dans 1 heure la dépouille d'un autre, une lettre avait glissé. C'était la dernière lettre de Kleist au prince de Saxe-Altdorf. « Mon ami, disait-elle, adieu. Oh, ce n'est pas que vous m'ayez peiné en préférant Hoffmann à Tieck. Ce n'est pas que je doute du récit de votre voyage en Sicile et de ce rosier dont les racines enserraient le cœur même de Platon. Ce n'est pas que j'en veuille à votre neveu Ernest d'avoir reproché à la France ses idées claires et son armée sans poésie, ni que je songe amèrement à nos terribles disputes journalières, et que je m'écarte de celui qui croit la vie née de l'ordre et non du chaos, qui estime le sanskrit plus utile aux historiens que le grec, et l'effort au lieu de l'intuition, la seule preuve de l'existence. C'est que je ne suis plus allemand. Il est 6 heures du matin et je vous écris d'Obermar-Mergau à cette fenêtre des Schwanthofer vers laquelle l'écho renvoie 6 fois les paroles et 12 fois les pensées. Je vois tous les animaux sortis de la nuit, grands et purs, les bœufs endormis, debout, se redonner à la vie de bœuf en ouvrant simplement les yeux, couverts de rosée comme des plantes. Les chats tout lisses guettent les musaraignes toutes peignées. J'ai vu par contre le voisin Sadoc laver son visage sali par le sommeil, étendre ses bras alourdis par le repos et rappeler ses esprits déchaînés par les rêves en lisant sa Gazette de Munich. La banque Müller a sauté, le ténor Knott va mieux, la bière baisse de Pfennig. Ces trois nouvelles ont annoncé le passage d'Obermergau du songe au réel. La vie peut y reprendre, la passion continuer. C'est que je disparais. C'est que ce soir, à 6 heures, mon train passera une frontière et que Siegfried Kleist aura vécu. Je vous rends ces deux noms intacts, de même que j'ai dû rendre élève à la fin de l'année à l'économe du gymnase mes livres de latin et de grec, sans tâche nouvelle. Tous mes papiers, permis de circulation pendant les émeutes, cartes de séjour pendant les révolutions, médailles d'identité pour la ration des denrées indigènes, entrée gratuite aux pinacothèques et à tous les musées germaniques, abonnements spéciaux au gaz et à l'électricité, j'en débarrasse tout, alors mon portefeuille. Désormais, je paierai double pour voir les Cranach et les Dürer, triple pour me chauffer à Munich et quadruple pour acheter les œuvres de Schiller. J'ai perdu l'Allemagne. Le Rhin, le Danube, l'Elbe et l'Oder, toutes ces fleuves que j'ai appris si récemment dans l'ordre comme un enfant, je les ai perdus. Il y en a que je n'aurais même pas eu le temps de voir pendant qu'ils étaient mes fleuves nourriciers. 60 millions d'êtres et leurs ancêtres se sont envolés de moi l'autre jour et m'ont laissé seul, comme le renard glissé dans l'assemblée des oiseaux qui apparaît dès que les oiseaux s'élèvent. Le gros aigle de l'Empire s'est envolé. Me voici abandonné aussi par l'oiseau Wagner, l'oiseau Nietzsche, l'oiseau Goethe. Zelten me retire un second passé, dont le souvenir peut m'être aussi cruel que le néant de l'autre. Je sens d'ailleurs qu'il a dit vrai. Je sens que j'ai été un élément étranger en Allemagne. Je me rends compte aujourd'hui seulement des malaises, des douleurs provoquées par elle en moi, et qui m'indiqueront peut-être mon vrai peuple. Cette peine que j'avais toujours à rouler le verbe à la fin, cette manie de ne pas croire les journaux, ce besoin d'avoir les cheveux non rasés, d'exiger une preuve à toute affirmation, un statut précis aux relations des États avec l'Empire et du cœur avec les sens. Vous rappelez-vous comme je reprochais à votre dynastie de n'avoir pas réglé depuis 1113 la question des biens du clergé avec la Saxe? Vous auriez dû deviner ce jour-là que j'étais né hors de l'Allemagne. Je me rends compte mieux encore depuis l'autre jour du délire sacré de votre patrie, que j'ai dansé chorégraphiquement, de sa résonance terrible dont j'ai usé pour lire de petits discours composés, de son déterminisme épouvantable que j'avais cru quelques phénomènes politiques et passagers comme la course à la mer ou au Rhin. En somme, de tout ce que je croyais une conséquence de la guerre, alors que les causes seules en apparaissaient exsorts en Allemagne comme les muscles après l'écorchement. Pauvre grande nation, qu'il est plus que chair, que poumon et digestion à jour, et sans douce peau, Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on me redonne pour patrie un pays que je puisse du moins caresser. J'ai prévenu les autorités. Il n'y aura pas de scandale. On va me porter noyé au Starnberg, mais les Salem m'ont vu couler devant eux. Ils m'ont tendu une dernière fois les mains avec une force d'ailleurs qui aurait retiré 20 noyés. Kumper m'a regardé partir avec cet air à la fois dédaigneux et jaloux du soldat qui voit le soldat blessé quitter le front. Toutes les recherches et les sondages dans le lac n'ont donné aucun résultat. Dès que je reparaîtrai dans l'Adriatique, dans le lac d'Annecy ou le Balaton, vous serez prévenu par Eva. Adieu. Deux vrais oiseaux viennent de s'élever près de moi, de la terrasse même. Le râle des genêts et le faisan bavarois m'abandonnent. Tous ces terres maintenant éveillées en France. Le soleil résonnait sur le pays à idées claires. Un chasseur à cheval de l'armée, sans poésie, avait capturé un renard d'eau et le montrait d'une barrière aux parents voyageurs qui n'hésitaient plus, pour un si beau spectacle, à réveiller leurs enfants dans les filets. Ces sidecars roux hérités de l'armée américaine couraient déjà les routes comme des parasites. Tous étaient éveillés. À Valençay, à Busançay, et dans les pays des fromages Roquefort et Levroux, déjà on les mangeait tout jeunes en buvant du vin blanc. Tous ouvraient les yeux, y compris les 600 000 candidats aux palmes académiques, à la médaille des épidémies, y compris les tireurs à l'arc de l'Oise, devant l'épouse en papillote et sans prétendant qui bande l'arc d'Acajou, y compris les indifférents du pont sur Yonne, tous déjà penchés sur Lyonne avec leurs lignes et qui arrachent à l'eau dorée des gardons comme des ganglions, y compris Monet, Bergson, Foch. C'est l'heure où les peintres et les chasseurs de Crozant rentrent de conserve à l'auberge. L'épinard, dégoûtant de sang et de couleur. On siro-vernicure les sabots des chevaux de Robinson. À Louargue-Brabant, à Cayenne, à Brazzaville, les administrateurs, jeunes et vieux, se disent qu'il doit faire rudement beau aujourd'hui à Bayeux, à Périgueux ou à Gap. Déjà, ceux des Français qui croient le plus en Dieu sortent des cathédrales après la seconde messe, tout heureux de la fin du prêche. Et les pies assaillent les chouettes, hasardées dans ce beau dimanche. C'était le premier dimanche du mois. Et tous acceptaient avec reconnaissance ce jour de paix profonde au milieu des 7 jours de paix problématiques. Rien ne menace aujourd'hui les maisons et les familles. C'est sans raison et pour s'exercer seulement que les pompiers se groupent autour de leurs pompes et les filles du rang autour de leurs mères. Les souvenirs des batailles s'éveillent pour les visiteurs. Tout le monde est éveillé, y compris ce que l'on attendait le moins, y compris Pasteur, Renan, Debussy. Et les écluses lâchent leurs eaux sur les canaux de ce loueur de nos gens qui les baptise et rebaptise d'après le nom de notre plus fidèle allié. Les noms n'en sont jamais secs. Les réveils que mon père avait placés pour moi dans chaque gare se sont tus, inutiles. Personne ne dort plus en France, hormis Forestier, près de moi. Mais il est temps. Pas une vallée, pas une colline depuis une heure qui n'ait une joie à caresser. Je vais le frapper à l'épaule de ma main gantée comme celle d'un contrôleur et pendant qu'il cherchera son billet, je lui tendrai, billet pour 30 ans, sa photographie d'enfant avec le nom imprimé du photographe. Et quoique à Londres, simplement, son nom.